Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
After this person. And clear.
Now. There's a camera there. There. And there.
Dash.
Nope, in any order.
This is not a cheap tie. Most people want to be cajillionaires. That's the dream. That's how they get you hooked. Hooked on sugar, hooked on caffeine. Ha ha ha, cry, cry, cry. Me, I prefer to just skim.
So do I.
Cajillionaire est un film américain écrit et réalisé par Miranda Julie. C'est un drame. Je l'aille ?
Ouais.
Je l'aille, ouais, quand même.
Elle est américaine.
Écoute, c'est pareil. Oui, j'ai pas le pitch sous les yeux, en fait. Il n'y a pas sur le pitch. Bref. Ça raconte l'histoire de la famille Dime. Robert et Teresa, les parents et leur fille qu'ils ont appelée Old Dolio, pour une raison qui est explicitée dans le film, c'est un nom très bizarre, et qui vont rencontrer qui est une famille en fait d'arnaqueurs. Ils vivent de menus larcins, d'arnaques et de
Oui, parce que c'est des arnaqueurs bas de gamme, hein. C'est pas DiCaprio dans Entrave-moi si tu peux, c'est pas George Clooney,
ils vivent de mini machins et de système D.
Et de concours.
Attrape-moi si tu peux, c'est la version porno d'Arrête-moi si tu peux ou
Attrape-moi si tu peux. J'ai pas capté, ouais.
Oups.
Toujours avec Tom Hanks et DiCaprio dans les rôles titres.
Et ils vont rencontrer lors d'un voyage en avion pour pour une de leurs arnaques une personnage qui s'appelle Mélanie, qui va rentrer dans leur petit groupe qui va les aider à faire des arnaques et qui va mettre en lumière les dysfonctionnements de la famille, notamment celle de les dysfonctionnements concernant Old Dolio avec ses parents. Voilà, qui veut se lancer dessus?
Bon, bah, je survase de Nam, donc il me regarde avec un regard assez dérangeant, en fait, assez insistant, assez. Je compte sur toi, Lila.
Sauve-moi, Lila.
je vais enchaîner simplement sur le fait que c'est quelque chose en fait qui va être finalement assez, enfin. Non, pas assez central. La pièce centrale du film, parce que même si on a ce contexte qui est super enthousiasmant, hein, ça paraît super ludique d'essayer de voir toutes les petites magouilles, toutes les petites combines que peuvent avoir cette famille pour arriver à joindre tant bien que mal les deux bouts, et plutôt mal que bien. Au final, le film parle pas de ça. Hein, comme, la vraie ligne directrice du film, c'est Old Dolio, justement, le moment où elle va finalement prendre du recul par rapport à tout ça, se rendre compte du système dans lequel elle vit, qui est ce système créé par ses parents, qui se sont marginalisés plus ou moins volontairement, en fait, de la société.
Les parents, oui. Pour le coup, ils sont mariés.
Il y a une revendication, en fait, dans leur posture, qui est de se dire, la société, c'est tous des salauds, c'est tous des hypocrites, nous, on n'est pas comme ça. Et finalement, leur fille est un prolongement de cette idéologie. Ils l'ont éduquée en fonction de cette vision qui est en fait finalement très psychorigide. Et ça va être le moment où, au contact de personnes plus normées, elle va se rendre compte que le système dans lequel ses parents l'ont élevée, c'est surtout un système dans lequel elle entend... Pardon, dans lequel elle, en tant qu'individu, elle a été négligée, elle n'a pas eu l'affection qu'elle aurait voulu avoir de ses parents. Ça s'est révélé dès le début, en fait, avec une scène qui est très très touchante où, dans l'une de ses magouilles, elle se retrouve avec un bon pour un massage. Donc elle essaie d'échanger contre du cash, mais on lui dit genre non, c'est pas remboursable, donc soit vous prenez le massage, soit vous balancez le bon. Donc elle se dit « Ok, je vais prendre ce massage parce que de toute façon, je peux pas en retirer d'argent liquide, donc tant qu'à y être, allons-y. » Et en fait, au contact de la personne qui va la mâcher, tout d'un coup, elle va se décomposer. Et tu vas comprendre qu'en fait, quelque chose aussi basique que le contact humain, c'est quelque chose qui lui a toujours manqué. Et en fait, auquel elle n'est pas prête à faire face. Et la véritable vocation du film, ça va être de s'intéresser à la trajectoire de ce personnage et à son ouverture au monde, à la norme et à son extraction en fait cette vision en fait très sectaire que peuvent avoir ses parents.
De son émancipation vis-à-vis de ses parents, oui.
Moi je suis totalement d'accord, je pense que le mot émancipation c'est le bon quoi, c'est vraiment ça, parce qu'en plus il y a une, moi c'est ce que j'aime aussi dans le film, il y a une histoire d'amour dans le film, que je révélerai pas entre quel personnage, mais qui aussi révèle une émancipation sur un autre terrain. Et moi c'est vrai, j'avais pas mal pensé à Une affaire de famille de Koreeda en regardant le film, en me disant c'est des films miroirs qui racontent tous les deux une famille marginale qui voilà, vit en dehors de la société, qui vit de menu larcin et tout ça. Et de comparer les films qui finalement sont très différents, parce que là par exemple cette famille là, enfin ces deux parents, ils sont pas drôles en fait, finalement ils sont même sociopathes.
Dans le Koreeda, c'est le côté dysfonctionnel rapproche des personnes isolées finalement.
Exact, et il y a un côté sur la qui fait miroir à la société, alors qu'ici ils sont presque trop psychopathe pour refléter quoi que ce soit, parce qu'ils sont d'une violence avec elle, avec leur propre fille.
C'est un outil, hein, clairement.
Oui, voilà, clairement, oui, c'est un esclave.
C'est une partenaire. L'affection, c'est de partager 50-50, quoi.
Mm-hmm. C'est ça, ouais.
La preuve d'amour, elle s'arrête là, quoi.
Et donc, juste pour. Quand je comparais ces deux films qui se retrouvaient finalement sur. Sur la peut-être le thème de la tendresse qu'on trouve à la toute fin du film, et qui finalement, est-ce que la famille est le lieu de ça, est-ce qu'on peut vivre sans ça, est-ce qu'on peut trouver soi-même ça en dehors du cadre familial, et finalement les deux films se retrouvent là-dessus alors qu'ils ont des pistes différentes. Et moi, c'est ouais, le dernier plan du film aussi est très très beau.
C'est vrai que c'est ça, c'est-à-dire que c'est la même chose qu'on trouve dans Koreeda, c'est-à-dire les liens du sang ne font pas la famille finalement. Mm-hmm.
Sauf que c'est la démonstration inverse.
Ouais. Ouais.
Il y a deux scènes sur lesquelles j'aimerais revenir rapidement. Il y a une où la famille et Mélanie se retrouvent dans la maison d'un petit vieux qui cherche à mourir. Mm-hmm. Donc on comprend qu'il a pris des médicaments, qu'il attend de mourir, et il leur dit « faites du bruit comme si vous habitiez ici ». Et il y a tout un jeu qui s'installe, où ils vont prendre des assiettes, ils vont faire semblant de manger, ils vont allumer la télé.
Ils vont jouer à faire la famille, en fait.
Ils jouent à faire la famille normale, mm-hmm. Et c'est vraiment cette scène où t'as Oldolio qui se rend compte de ce qu'elle a pas, mm-hmm. Et de ce à quoi elle aimerait aspirer. Et une scène qui suit très rapidement après, où t'as les parents qui se retrouvent tout seuls avec Mélanie, et où ils se disent, elle va pas rester très longtemps, et tiens, si on la baisait. C'est très bizarre, très, mm-hmm. Très malsain, très cringe, de la part des parents, qui tombent un peu, entre guillemets, un petit peu comme un cheveu au milieu de la...
Pour eux, c'est l'autre, c'est quelqu'un exploité d'une manière ou d'une autre.
Et en fait, non, ça révèle quelque chose qu'on voyait déjà des parents, mais du fait que c'est des personnes très néfastes,
bien sûr.
Et qui voient les autres comme des gens pour qui on... comme des outils.
Et puis on joue sur le concept du débordement que ça va avoir sur leur fille, en fait, ne serait-ce que par même la métaphore de cette espèce de mur là, dans lequel ils vivent, dans cette espèce d'entrepôt qu'ils louent une misère, parce que justement il y a un dysfonctionnement au niveau de l'usine de bulles,
l'usine de savon.
Voilà. Ils ont du coup, tous les jours, ils doivent revenir à heure fixe pour nettoyer le savon. Et il ne faut surtout pas que ça déborde dans la pièce. Et donc c'est un petit peu toujours ça, c'est cette arnaque immense qui est toute leur vie. Au final, il ne faut pas que ça déborde, il ne faut pas qu'on réalise, et il ne faut surtout pas que leur fille, qui est cet élément... novateur pour eux, puisqu'ils peuvent tout faire avec, ils l'ont entraîné, c'est une machine de guerre, la gamine, quoi. Et si elle découvre que tout ce qui est autour d'elle est une supercherie, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que c'est là que la scène est importante, donc du coup, on peut potentiellement parler du coup, au moment où on dévoile le prénom de Oldolio, la raison pour laquelle on se rend compte que du coup, c'était le nom d'un SDF, en fait, qui avait gagné au loto ou à la loterie, une énorme fortune, qui s'apprêtait à mourir. Et là, vraiment, ils ont fait. Est-ce que la femme était enceinte dans ce cadre-là? Je sais plus si c'est expliqué, mais en tout cas, ils ont fait un enfant et ils l'ont appelé comme tel pour la prétendre héritière de cette personne, quoi. Donc du coup, l'enfant est une arnaque. Il a été conçu dans ce but-là. Et quand il dévoile ça, justement, je crois qu'il le dévoile au personnage de Mélanie, du coup. Et en tout cas, Oldolio n'est pas là quand on dévoile ça. Et je trouve que c'était assez représentatif, le côté elle sait ce qu'elle est, elle sait à quoi elle sert, mais pas tant que ça, en fait.
Je crois que c'est même précisément elle qui l'explique, c'est quand elle...
Je croyais qu'elle n'était pas là.
Dans une de ses nombreuses magouilles, elle est payée par une fille pour se rendre à sa place, en fait, à des sortes de rendez-vous pour jeune mère.
Oui.
Et à un moment donné, il y a une sorte de jeu de rôle qui se met en place où l'animatrice de ces... ses interventions, enfin de ses cours, en fait, essaie de démontrer comment parler avec un enfant. Donc, elle fait venir plusieurs jeunes parents et fait un petit jeu de rôle avec eux comme si c'était un enfant pour expliquer comment est-ce que on doit parler à un enfant pour prendre connaissance de ses besoins, etc. Et Oldolio, à ce moment-là, qui du coup n'est pas du tout une jeune mère, n'attend pas du tout d'enfant, elle est juste là parce que une nana lui a dit « Tiens, je te file 20 balles si tu vas à ma place et que tu me ramènes le petit tampon. » Elle y va, en fait, et elle commence à raconter son histoire à ce moment-là, en fait, parce que la nana, du coup, de ce programme lui demande « Comment ça t'appelle ?»« Comment s'appelle ta fille ?» Et elle lui dit, en fait, elle dit à propos de cet enfant fictif, ce qui s'applique à elle-même, en fait, qui est, elle s'appelle Oldolio parce que ceci, cela, c'est le nom d'un SDF qui a été à la loterie.
Autant pour moi.
Voilà.
Ça, là, comme quoi, voir un film il y a un mois et demi et en avoir vu beaucoup trop entre-temps, tu vois, ça marche, j'ai pas les souvenirs. En tout cas, c'est dit avec une banalité assez caustique. Elle se rend même pas compte qu'elle parle d'elle-même, quoi.
Voilà, et puis, les parents, finalement, ils sont eux-mêmes hypocrites parce qu'il y a par exemple, on peut adhérer si on veut à cette vision de marginalité, de dire on veut surtout aux États-Unis ne pas. Mais finalement, par exemple, dès le moment où ils ont de l'argent, ils achètent un jacuzzi géant.
Oui, et en fait, ils ne s'en servent pas.
En plus, voilà. Donc en fait, en voulant s'exiler de ce pays de consommation et tout, ils sont les premiers consommateurs à la première occasion.
Voir le côté matérialiste.
Voilà, aussi, totalement. Donc leur vision du monde ne tient pas du tout, elle n'est pas cohérente finalement.
Il y a une autre scène dont il faut qu'on parle vite fait, c'est la scène de renaissance de Oldolio. Parce que il y a un point dans le film qui revient assez souvent, c'est que la famille a très peur des tremblements de terre et ils attendent le Big One. Et du coup, ça permet aussi en même temps de donner des petites informations sur... les tremblements de terre, que si jamais il y en a un, faut pas toucher les murs parce que tout est électrifié, voilà, c'est ce qui est vrai pour le coup. Et t'as une scène où Oldolio veut faire le. Je sais plus comment ils appellent ça, c'est le. Un truc, c'est après la naissance, tu poses le bébé sur le ventre de la mère et, et il rentre vers le téton, en gros. Et en gros, elle veut refaire ça parce qu'elle l'a jamais fait. Et du coup, ils trouvent un endroit sombre, c'est des toilettes où il n'y a pas de lumière.
Des toilettes dégueulasses, une station service, voilà.
Et pendant qu'elle est aux toilettes avec Mélanie, il y a un tremblement de terre qui arrive qui a l'air assez puissant. Et Oldolio est persuadé
que c'est le Big One.
Que c'est le Big One et qu'elles sont mortes. Et t'as tout un passage.
Très jolie scène. Hein.
Très jolie scène, t'as un passage où t'as des. La pénombre des toilettes, ça devient une espèce d'espace jusqu'au moment où la porte s'ouvre et là elle redécouvre quand non elle est encore en vie et elle redécouvre le plus c'est une station service toute dégueulasse mais c'est le comme si c'était le plus bel endroit auquel elle est jamais allée.
C'est ce que j'aime dans le film, c'est que c'est aussi que je pense qu'on est tous cinéphiles et au bout d'un moment à force de voir des films tu sais où ils vont. Et ça, c'est moi, j'ai toujours le plaisir de me dire, tiens, ce film, je sais pas du tout où il va. Ouais. Il va tout le temps être surprenant jusqu'à la fin. Il répond à aucune norme d'intrigue. Alors oui, une histoire d'amour, mais pareil, elle intervient bizarrement au milieu du film. Enfin, c'est un film totalement surprenant, en fait.
Et puis ce qui est bien dans cette scène, c'est-à-dire que jusque là, tout ce qui est, on sent qu'elle est en recherche de rapprochement d'émotions, mais de fait, son éducation a toujours un mouvement de recul, et ce moment-là, c'est le moment que tout enfant vit un jour ou l'autre, c'est le moment où on se rend compte que c'est comme ne plus croire au Père Noël, ou enfin le moment où tu comprends que tes parents parfois peuvent te mentir, ou que tes parents n'ont pas toujours raison, et du fait de son éducation, elle, ce moment-là, du fait de l'emprise de ses parents sur elle, ce moment-là, c'est une bascule d'autant plus grande pour elle, c'est-à-dire ça modifie totalement sa vision du monde, c'est-à-dire elle est sur le reculoir avec le personnage de Mélanie, et c'est la première fois où c'est elle qui va lui courir après, c'est-à-dire là elle se dit finalement le monde peut être beau, moi aussi j'ai droit au bonheur, et c'est, du coup c'est elle qui pourchasse finalement en plus d'une manière...
Qui va ramper vers elle pour s'excuser aussi, parce qu'elle a dit des trucs pas très sympas à Mélanie justement,
mais même ça c'est bien écrit parce que elle lui fait des commentaires, genre elle lui dit un truc, ton cerveau est dans tes seins et tout, mais tu comprends qu'en fait elle est obsédée par les seins de la... Ça fait très sens en fait.
Et puis c'est amorcé avant les petites scènes, je crois, la première scène où il y a une sorte de contact physique entre elles quand elle lui casse un ongle, Et puis elle lui répare son ongle. Déjà, il y a Mélanie qui a une réaction aussi, parce qu'on sent, elle, c'est du non-dit, mais on sent qu'aussi un rapport un peu bizarre avec sa mère aussi, avec laquelle elle parle que par téléphone.
Ouais.
Donc il y a une bascule comme ça, et puis il y a une autre bascule où la scène de famille quand ils sont chez le petit vieux, qui est totalement factice, et ce moment où elle semble naturelle, où il y a quelque chose qui passe, c'est qu'au moment où elle joue du piano, et du coup Old Olio la regarde, et puis on sent qu'il y a, pareil, c'est le moment où il y a une vraie connexion intime, sincère, dans le film, en tout cas entre les personnages à ce moment-là, contrairement au jeu de rôle qu'ils ont dans cette scène-là. Il y a des moments clés qui amorcent cette scène, ouais. Cette scène auparavant.
Cagy Lyonnais, on vous conseille de le voir.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.